Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. C'est une réforme qui ne dit pas encore son nom, celle de la protection sociale à laquelle s'est attelé le gouvernement. Vaste chantier, il s'agit de repenser la logique globale du système hérité de la Libération, sans pour autant donner l'impression qu'une telle refonte est à l'œuvre. Il y a pourtant bien une cohérence entre la suppression annoncée de la part salariale des cotisations chômage et maladie, leur transfert vers la CSG, la suppression du régime social des indépendants, le projet de réforme des retraites vers un régime universel et sans doute aussi avec la nouvelle loi travail dont les premières mesures viennent d'entrer en vigueur. Or, côté gouvernement, il s'agit de prendre acte de la révolution du monde du travail où les contrats courts, le travail indépendant prennent de plus en plus de place et nécessitent donc d'être mieux couverts qu'ils ne le sont aujourd'hui, c'est-à-dire très mal. Mais cette logique de couverture universelle remet en cause la philosophie de notre système de protection sociale. En fiscalisant celle-ci, c'est-à-dire en la faisant financer par l'impôt, elle la rend aussi plus vulnérable aux aléas de la conjoncture économique. Alors, protection sociale, le grand chambardement. C'est la question, c'est le thème dont nous allons discuter ce soir en compagnie de deux invités. Brigitte Dormont, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, professeure à l'Université Paris-Dauphine, directrice du laboratoire d'économie et de gestion des organisations de santé. Vous avez publié l'an dernier une note pour le Conseil d'analyse économique. Gouverner la protection sociale, transparence et efficacité, note coécrite avec Antoine Bozio. Pour discuter avec vous, Nicolas Duvoux,
bonsoir.
Vous êtes sociologue, professeur à l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, co-rédacteur en chef de la vie des idées.fr. Vous venez tout juste de publier dans la collection Que sais-je, c'est au PUF, Les inégalités sociales. Alors ce soir, plutôt que de consacrer une émission à une des parties de ce qui nous semble être une réforme d'ensemble, nous avons donc choisi d'avoir une approche un petit peu globale. Mais avant de voir s'il y a véritablement cohérence de votre point de vue et l'impact que peuvent avoir cet ensemble de réformes sur notre modèle de protection sociale, je voudrais peut-être qu'on démarre justement par prendre les réformes une par une et celle qui est désormais engagée. Il y a des discussions qui sont entamées avec les partenaires sociaux, qui est celle de l'assurance chômage. L'idée de base, manifestement, c'est d'ouvrir l'indemnisation aux indépendants, c'est-à-dire artisans, commerçants, agriculteurs, etc., et aux salariés démissionnaires. Il s'agit donc d'universaliser l'indemnisation chômage. Est-ce qu'on peut dire que, a priori, c'est une approche plutôt généreuse, Brigitte Dormont?
Ça semble attrayant quand on entend la proposition. Enfin, la chose qui me semble plus étonnant et peu réaliste, c'est le fait d'étendre l'assurance chômage aux salariés qui démissionnent. Donc là, les premières estimations donnent des chiffres proprement ahurissants qui font que c'est impossible, hein, donnent des coûts allant de 8 à 14 milliards d'euros pour couvrir les salariés qui démissionnent.
D'autant qu'il pourrait y avoir des effets d'aubaine, dit-on, c'est-à-dire les personnes qui arriveraient au moment de la retraite pourraient profiter justement de ce moment-là pour démissionner.
Bon,
faudrait-il
plus,
qu'ils aient tous du travail.
Mais donc là, nous les économistes, on parle d'aléa morale en disant que les individus, quand ils sont couverts, peuvent mal se comporter pour profiter de telle ou telle assurance. Donc autant on peut discuter de cette idée pour la santé, ça peut être tout à fait contesté. Autant là, si vous pouvez, en étant indépendant, démissionner, en étant salarié, démissionner pour bénéficier d'une assurance chômage, donc là, il peut y avoir des effets d'aubaine. Et l'extension aux indépendants aussi est très difficile à concevoir, hein. Donc, le fait d'étendre considérablement le champ de l'assurance chômage, ça éveille tout de suite la suspicion du fait que ça sera tenable qu'en diminuant très sérieusement les prestations.
Alors c'est assez logique, Brigitte Dormont, que vous ayez cette approche en tant qu'économiste, c'est-à-dire d'évaluer les coûts. Quand on est sociologue, on a peut-être une approche un peu différente, Nicolas Duvoux. Est-ce que du point de vue, en tout cas, de l'équité, c'est quelque chose qui vous semble une mesure intéressante? Après tout, pourquoi des salariés, des travailleurs en tout cas, devraient-ils être traités différemment du point de vue de l'indemnisation au chômage?
Je crois qu'un des points de départ de cette réforme, c'est un état des lieux de le caractère très insatisfaisant de la couverture du risque chômage dans la France contemporaine. Il faut quand même rappeler qu'environ seulement un chômeur sur deux est indemnisé, parce que notre système de protection sociale, sans même parler tout de suite de la question des indépendants, dont on sait qu'une partie d'entre eux sont exposés à des situations de précarité ou de pauvreté, une partie des chômeurs sont simplement pris en charge par l'assistance, et que en fait, le périmètre du chômage assuré s'est restreint, et que du coup la protection sociale s'est dualisée. Donc l'idée d'universaliser, c'est l'idée, de manière abstraite, de rendre accessible à tous cette protection contre le risque chômage. Et donc de ce point de vue-là, on peut dire qu'il y a effectivement une vertu théorique.
Est-ce que ça peut se faire dans le cadre actuel, c'est-à-dire celui des cotisations salariales, ou bien est-ce que le statut justement de ces professions qui ne sont pas couvertes aujourd'hui interdit d'aller dans cette voie et oblige à modifier le système d'assurance chômage?
Le principe du système d'assurance chômage, c'est d'équilibrer les cotisations et les prestations. Et là, en fait, c'est pour ça que les réformes sont en fait extrêmement importantes et ambitieuses. Elles sont transformatives de la société française. C'est qu'elles vont faire passer par l'État des choses qui relevaient autrefois du paritarisme, c'est-à-dire des arrangements entre les représentants des employeurs et des salariés. Et du coup, il y a une reprise en main par l'État de tout un ensemble d'éléments du système de protection sociale, dont l'assurance chômage est un, et avec effectivement l'idée de proposer les modalités de réalisme. Est-ce que c'est réaliste ou pas, c'est une autre question, mais l'idée, je crois qu'il faut d'abord clarifier l'idée, c'est d'élargir aux indépendants et à des professions qui ne sont actuellement pas couvertes l'indemnisation du chômage, avec comme contrepartie d'assurer le pouvoir de l'État sur ce mécanisme, et donc du coup aussi la capacité pour l'État, c'est ce que Brigitte Dormont a signalé, d'arbitrer sur le montant des prestations et sur les conditions qui peuvent être appliquées aux chômeurs dans le cadre de leur recherche d'emploi.
Restons sur le principe de base de cette réforme, Brigitte Dormont. À partir du moment où on considère qu'il faut étendre la protection du risque chômage à l'ensemble des travailleurs, est-ce que l'unique solution est de passer justement par une forme de reprise en main par l'État de ce sujet, une nationalisation de l'assurance chômage? Je rappelle donc, l'idée c'est on supprime les cotisations d'un côté, on augmente la CSG de l'autre pour le financer. Ou bien est-ce que ça pouvait se faire dans le cadre actuel?
Alors je vais répondre un petit peu à côté quand même, mais je crois qu'il faut bien comprendre que la prestation de protection sociale, le service qu'on reçoit, l'indemnité pour le chômage par exemple, ou la retraite, ou la couverture maladie, la nature de la prestation est en lien avec la façon dont on finance la couverture. Donc ce que disait mon collègue, c'est que il y a eu de tout temps et pour toutes les prestations, deux types de prestations. Des prestations d'assurance et des prestations d'assistance. Donc c'est un départage qui est donné assurance-assistance. Donc l'idée d'assurance, c'est l'idée ancienne qui a été mise en œuvre par Bismarck au 19e siècle. Et la version française du pacte de 45, c'est que les salariés ont des droits qui sont acquis avec des cotisations. Donc ils ont droit à une prestation qui est pour la retraite, un revenu durant leur retraite qui a un lien avec leur salaire.
Voilà, en fonction de ce que je cotise, je vais recevoir un niveau de prestation qui sera différent d'autres salariés.
Pas forcément proportionnel, mais en lien avec mon niveau de salaire. Donc il y a des inégalités au niveau de la retraite comme des inégalités au niveau du salaire. L'intérêt de cette forme de protection sociale, c'est qu'il y a des droits, que ces droits sont établis, négociés entre les salariés et après le patronat, et qu'après, il y a une sorte, l'État n'a pas forcément de droit de regard sur le niveau des droits. Donc, par exemple, la France a un niveau de retraite complémentaire, un niveau de dépenses publiques de protection sociale supérieur aux autres pays, uniquement à cause des retraites complémentaires. Les retraites complémentaires sont plus généreuses en France qu'en Allemagne, par exemple, ou que dans d'autres pays. Eh bien, on peut considérer que c'est bien comme ça, parce que, enfin on peut juger, parce qu'il y a une discussion des travailleurs entre eux qui décident de consacrer une partie de leur salaire actuel pour avoir de meilleures retraites complémentaires. Si, alors je rejoins la question, si on avait un système financé exclusivement par l'impôt, donc dans les projets actuels, il y a l'idée d'unifier tous les régimes de retraite. Si c'était uniquement financé par l'impôt, donc ce n'est pas le projet pour les retraites, eh bien à ce moment-là, ça irait dans le budget de l'État. Il y aurait des impôts progressifs et il y aurait un jugement de la nation sur le niveau de la fiscalité qui pourrait être jugé insupportable, qu'il faut réduire les dépenses publiques, etc. Et il n'y aurait plus de lien entre la prestation et le financement. On n'aurait plus le mécanisme de dire « bah oui, on veut bien cotiser plus pour avoir de meilleures retraites ».
Donc si on nationalise l'assurance chômage...
Donc le lien cotisation est très important pour qu'il y ait un choix collectif du niveau de prestation qu'on veut avoir. Et donc là, pour le chômage, on perd ce lien.
Donc on prend le risque d'avoir des prestations chômage, si elles sont financées par l'impôt, Nicolas Duvoux, qui seront moins importantes, peut-être d'ailleurs en particulier pour les populations qui cotisent beaucoup, c'est le cas notamment des cadres, pour avoir justement un risque qui est davantage couvert, enfin qui correspond davantage à leur niveau de revenu.
C'est ça, on aurait en fait dans la protection sociale, comment on finance, quand c'est des cotisations, des contributions des salariés, il y a cette proportionnalité avec la prestation qui est versée. C'est pour ça que vous avez des cadres aujourd'hui qui touchent plus de 6 000 euros de chômage, de prestations de chômage. Et ce sont les salariés ou les représentants des salariés, les employeurs qui décident. Ici, quand on passe dans un financement par l'impôt, eh bien, du coup, c'est la puissance publique qui s'autorise un droit de regard sur le montant des prestations et sur les conditions que l'on va appliquer aux chômeurs pour retrouver ou retourner sur le marché du travail. Donc, de fait, il y aura une plus grande maîtrise par le pouvoir politique sur ces arbitrages qui, quand ils dépendent des partenaires sociaux, au fond, font l'objet de leur concertation et de leur accord mutuel. Donc, c'est vraiment un changement dans, finalement, non seulement le mode de financement, les cotisations ou la fiscalité, dans qui va recevoir les prestations, est-ce que ce sont juste ceux qui cotisent ou aussi les indépendants et d'autres salariés, et sur qui décide finalement des paramètres. Donc il y a évidemment des risques, parce que dans un système beveridgien, dans un système c'est-à-dire qui est financé par la fiscalité, eh bien il y a une capacité du pouvoir politique beaucoup plus grande d'agir sur les paramètres de la protection sociale. Et en fait, je crois que c'est ça qui est à l'origine de l'ensemble des projets dont on va parler, c'est que le pouvoir politique souhaite exercer une plus forte emprise sur les systèmes de protection sociale.
Est-ce que ça, c'est ce qu'on peut constater justement, parce qu'il y a deux grands modèles, hein, vous le disiez l'un et l'autre, système beveridgien et système bismarckien, donc un qui est plutôt côté allemand, qui a inspiré notre protection sociale française, et puis le système beveridgien qui est un système, disons, anglo-saxon. Est-ce qu'on peut constater justement que quand la protection sociale est prise en charge par l'impôt, Brigitte Dormont, ça devient aussi davantage une variable d'ajustement et que les prestations qu'on peut recevoir sont beaucoup plus aléatoires parce que dépendant énormément et du niveau, on va dire, et de l'état du débat politique et de la conjoncture économique.
Enfin, il y a l'idée donc qu'on a observée en Angleterre par exemple, mais dans d'autres pays aussi. Enfin, il y a le fait que quand c'est l'impôt qui finance la protection sociale, on a un glissement progressif vers des prestations très égalitaires et d'un niveau très bas, avec l'idée que les gens vont compléter avec un marché privé de la couverture, la retraite complémentaire, etc.
Ça se fait jamais par le haut, c'est-à-dire c'est pas égalitaire, mais avec un niveau très bas.
Non, justement. Donc il y a une logique politique profonde qui s'observe et qui est à l'œuvre actuellement dans tous les pays. Donc pourquoi égalitaire et bas ? Parce que l'impôt dans tous les pays développés est progressif, donc les riches payent plus que les pauvres pour l'impôt, et donc il est plus avantageux pour eux de cotiser à une assurance privée, ça leur coûtera moins cher pour la même retraite, que très égalitaire et très haut. Donc il y a vraiment une logique interne profonde au fait qu'on dérive vers des niveaux égalitaires et bas. Et c'est ce qu'on a en Angleterre, en Grande-Bretagne, il y a une retraite publique très égalitaire et un niveau très bas.
Ça veut dire qu'une approche égalitaire peut se traduire par d'autres inégalités, Nicolas Duvaux.
Oui, une approche égalitaire, quand c'est une approche de plancher, si vous voulez, d'un minimum de survie pour tous les bénéficiaires de prestations sociales. Mais effectivement, on a un plancher minimal, et puis ensuite, au-delà, on recourt à l'épargne privée quand on le peut, par rapport à des systèmes complètement. Je voulais juste faire trois remarques par rapport à cette question du système beveridgien qui repose sur la fiscalité. Ce qu'on observe dans les systèmes anglo-saxons et qu'on n'a pas observé en France ou en Allemagne, c'est par exemple, vous avez des systèmes qui étaient relativement généreux avec des fiscalités progressives aux États-Unis, au Royaume-Uni, jusque dans les années 70 et qui brutalement, parce que les impulsions du pouvoir politique ont changé au début des années 80, eh bien, ont changé de modèle de protection sociale. Alors, quand vous êtes dans un système assurantiel où il y a des droits acquis, hein, et sur de longues périodes pour la retraite, par exemple, c'est beaucoup plus difficile de faire évoluer ce type de système. Deuxième point que je voudrais sur ce système beveridgien financé par l'impôt, en général, effectivement, le financement par l'impôt, ce sont des prestations d'assistance sociale ou des prestations de base qui sont d'un montant très bas. Mais il y a un contre-exemple ou des contre-exemples qui sont quand même les sociétés nordiques ou les pays scandinaves, et notamment ceux, la Suède, le Danemark, qui mettent en œuvre des politiques qui sont beveridgiennes, mais qui sont d'un haut niveau de protection pour les salariés. Et alors, on parle souvent de la flexi-sécurité. La flexi-sécurité, c'est simplement le haut niveau de prestation, de protection des salariés, enfin des citoyens, de tous les citoyens, bah, va être la contrepartie de la liberté de licencier et d'embaucher des entreprises. Donc, il n'y a pas forcément de systématicité du lien entre le fait qu'on passe par la fiscalité et le fait qu'on ait un bas niveau de prestation. Les pays du nord de l'Europe sont un contre-exemple.
Et c'est des pays très égalitaires au niveau des salaires.
Ce sont des pays très égalitaires au niveau des salaires, et c'est ça qui fait qu'il y a un décalage très fort entre, quand on parle de flexi-sécurité en France, souvent, on retient la flexibilité et on oublie que ce sont des pays qui limitent très fortement la dispersion des salaires, des bas salaires et des hauts salaires.
Vous avez raison de le signaler, parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de faire accepter des prestations qui seraient plus égalitaires quand il y a moins d'inégalités au niveau des salaires.
Absolument. Une dernière remarque, c'est que en fait, dans le débat politique actuel, on présente, et effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des éléments qui accréditent l'idée qu'on est face à une série de réformes qui vont modifier en profondeur notre système de protection sociale. Mais la rhétorique politique fait comme si notre système n'avait pas déjà profondément évolué. La création du RMI en 1988 et surtout la création de la CSG, la contribution sociale généralisée en 1991 sont des éléments qui ont ancré la fiscalité dans le financement de notre protection sociale. Donc on ne part pas de rien et c'est pas comme si on allait passer d'un modèle à un autre.
On est déjà dans un processus qui a été entamé depuis quelques années, Brigitte Dormant.
Oui, alors je voulais revenir sur égalitaire ou inégalitaire.
Ah, vous voulez pas, alors vous répondrez à la question après.
Alors, très égalitaire au niveau des retraites basses en Angleterre, mais dans les faits très inégalitaire, puisque les personnes riches peuvent souscrire à des assurances complémentaires qui leur donneront une bien meilleure retraite.
Un retraité sur trois est pauvre au Royaume-Uni pour accréditer
ça,
cette idée.
Voilà. Et donc, t'as pas forcément les moyens d'avoir ces assurances complémentaires.
Donc, quand on dit égalitaire avec un bas niveau de générosité, ça implique beaucoup d'inégalités. Alors, ce que je voulais dire qui me semble extrêmement important, c'est qu'il faut distinguer entre les risques. Donc, par exemple, dans le travail que j'avais fait avec Antoine Bozio, on distinguait profondément les risques retraite et assurance chômage du risque maladie.
Pour quelle raison ?
Parce que, justement, la prestation est définie différemment. Pour l'assurance chômage ou la retraite, ce sont des revenus de remplacement. Je pars à la retraite, je gagne 1500 euros, je pars à la retraite, je veux un revenu de remplacement. Et donc, il y a une logique à ce que le revenu de remplacement, comment définit-on le revenu de remplacement ? Est-ce qu'on dit, c'est égalitaire, 1000 euros pour tout le monde, et puis vous complétez à l'anglaise ? Ou bien on veut une proportionnalité, une relation entre le revenu de remplacement et la prestation. Donc nous, on pense, à cause de ces questions d'inégalité, que c'est très important que ça ne soit pas égalitaire, mais que ça reflète la distribution des salaires, parce qu'au final, ça sera plus égalitaire parce que il n'y aura pas un revenu très bas et avec un complément par les riches.
Et parce que ça permet aussi à tout le monde, du coup, quel que soit son niveau de revenu, d'accepter le principe de la solidarité.
Exactement, c'est ça. Absolument. Ça contribue à l'adhésion au système. Et c'est la même chose pour le chômage. En revanche, la maladie, c'est extrêmement différent. L'assurance maladie finance des soins en fonction des besoins des personnes. Et les besoins des personnes n'ont rien à voir avec leurs revenus. Il y a beaucoup d'études qui sont faites là-dessus. La consommation de soins des gens a pratiquement aucune corrélation avec le niveau de revenu.
Quel que soit mon niveau de revenu, je suis remboursé de la même manière si, par exemple, je vais voir le médecin et que j'ai une grippe. Il n'y a pas de raison que je sois mieux remboursé parce que je gagne plus.
Exactement. Les riches n'ont pas plus de cancer que les pauvres, etc. Donc, tout le monde est remboursé, pris en charge, en fonction de ses besoins. Donc, la question est très différente d'une protection sociale chômage ou retraite. La question n'est pas, quand je n'ai plus mon revenu, qu'est-ce que je veux comme remplacement ? La question est, quand je suis malade, est-ce que je suis pris en charge ? Et la question est très différente, c'est est-ce que je veux que dans le panier soins remboursé, il y ait le dernier médicament très innovant qui guérit de l'hépatite C, par exemple. Et donc, cette discussion, elle n'a rien à voir avec les cotisations sociales. Et nous, on préconise que, justement, ça soit l'impôt qui finance l'assurance maladie, parce que, donc, qui serait en fait un service public de prestation des soins. L'impôt, pourquoi ? Parce que la discussion doit être quel effort la nation veut-elle faire pour couvrir la maladie ? Est-ce qu'on veut intégrer telle ou telle innovation afin que tous aient accès à cette innovation ? Alors que si c'était financé sur cotisation, on serait limité par ce que rapportent les cotisations sociales et donc la fluctuation de la croissance pour choisir les soins que nous voulons.
Nicolas Duvaux, est-ce que vous êtes d'accord avec ce distinguo, c'est-à-dire en matière d'universalité, on ne peut pas traiter exactement de la même manière la protection maladie et la protection par rapport au chômage ? Et si oui, c'est-à-dire si vous êtes d'accord, comment est-ce qu'on explique justement cette logique qu'il semble y avoir dans le projet du gouvernement à vouloir supprimer en même temps la part salariale des cotisations chômage et des cotisations maladie ? Moi, j'avoue que j'ai du mal à comprendre cette logique.
Parce qu'on a une recherche de baisse du coût du travail par la baisse des cotisations. Ça, c'est tout à fait évident. C'est la stratégie économique. Donc, après, on va chercher là où il y a l'argent. C'est comme si vous demandez quelle est la rationalité de la baisse de 5 euros des APL. C'est une rationalité budgétaire. Donc ça, je pense qu'il ne faut pas tout de suite l'écarter par principe. Ensuite, effectivement, alors moi je serais plus nuancé sur l'idée que le chômage est justifié en tant que revenu de remplacement absolument, parce que je suis complètement convaincu par les avantages en termes d'adhésion à la contribution que suscite ce mode de financement. Et en même temps, on a aujourd'hui, encore une fois, une indemnisation du chômage qui écarte beaucoup de chômeurs. Et donc, ça pose des problème aussi, parce qu'on fait comme si il y avait dans l'indemnisation du chômage, il n'y avait pas aussi le problème de tous ceux qui sont éloignés depuis longtemps du marché du travail et qui du coup n'ont pas accès au système.
Sauf qu'en le faisant financer par l'impôt, alors en l'occurrence la CSG, vous demandez aussi à certaines personnes de contribuer à un risque auquel ils ne sont plus confrontés, je pense aux retraités. Oui. C'est-à-dire le retraité qui voit sa CSG augmenter aujourd'hui, pour financer l'assurance chômage, le retraité, il y a peu de chances qu'il se retrouve au chômage, oui, par définition.
Absolument. Mais alors, il se trouve que là, sur les retraités et sur cette question-là, les retraités ont aujourd'hui des revenus qui sont à peu près semblables à ceux des actifs, avec souvent une accumulation patrimoniale plus importante. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit la mesure la plus injuste socialement que prenne ce gouvernement que de faire cette extension de la CSG.
Mais sur ce point, Brigitte Dormeux, ensuite je vous redonne la parole, Nicolas.
Alors, moi, j'ai beaucoup de mal avec cet argument. Donc, ça fait longtemps qu'existe dans les tiroirs le projet d'étendre le même taux de CSG à tous les retraités par rapport aux actifs, avec cet argument du niveau de vie des retraités, etc. Donc derrière ça, ce qu'il faut voir, c'est que c'est des arguments en termes de moyenne. Et derrière ça, il y a une distribution avec une quantité de retraités qui ont des revenus très très faibles, qui eux, alors donc avec les discussions sur le seuil auquel commencera la CSG, on a bien vu que les gens étaient très étonnés du bas niveau des retraites pour 40%, puisque le seuil maintenant c'est les 40% plus bas, on voit que c'est un très très bas niveau. Donc ce raisonnement en termes de on peut piocher sur les retraités parce qu'ils ont un niveau de vie supérieur, je trouve que ça se discute. Mais c'est vrai que la motivation, enfin je rejoins tout à fait, la motivation c'est d'arriver à coût constant à abaisser le coût du la valeur du salaire plus les charges sociales, donc pour améliorer la demande de travail et les embauches. Et donc de faire payer par les retraités un allègement de charges qui existe sur les salaires. Hein. Je crois que la motivation numéro un, c'est ça.
Et cette stratégie économique, et là pour le coup, elle est vraiment complètement opposée au modèle sociodémocrate du nord de l'Europe, de la flexi-sécurité, où on cherche à aller dans des emplois à très haute valeur ajoutée, avec un énorme investissement en formation pour que les gens puissent être positionnés de manière avantageuse sur le marché du travail. Là, on a vraiment une stratégie d'entrée par des emplois peu ou pas qualifiés. Alors sur la question, je reviens reviens sur la question de l'assurance maladie et du financement par la fiscalité. Là, moi aussi, je suis d'accord avec cet argument, mais il faut aller un pas plus loin. C'est-à-dire, qu'est-ce que, du coup, on réforme dans le fonctionnement du système de santé aujourd'hui pour que cette dimension de service public universel de la santé soit respectée? Parce que, certes, on a...
Parce qu'il ne l'est pas aujourd'hui.
Juste un mot, mais on a en France un système de santé qui produit à la fin des inégalités sociales d'accès à la santé, des écarts de niveau, simplement des écarts d'espérance de vie et d'espérance de vie en bonne santé entre les cadres et les ouvriers qui sont massifs. C'est 7 ans d'espérance de vie de différents. Donc c'est quand même très important. Et pourquoi ? Parce que comme on a un système de santé qui fonctionne pour l'essentiel sur la médecine libérale, eh bien on a une inégalité dans la capacité des gens à circuler dans ce système de manière intelligente, parce qu'il y a peu de prévention qui est faite. Et donc on retrouve, alors certes les cadres ça se discute, parce qu'en fait les ouvriers ont plus de cancers, ils sont plus exposés que les cadres à des pathologies, notamment en termes de pénibilité, de conditions de travail. Donc, de fait, les ouvriers ont plus de cancers que les cadres. Mais surtout, les cadres ont un meilleur accès au système de santé. Et donc, la question, c'est si on fait passer par la fiscalité, le financement du système de santé et de l'assurance maladie, alors ça veut dire qu'il va falloir réfléchir à l'organisation de ce système de santé pour rendre son accès plus égalitaire qu'aujourd'hui.
Sauf qu'on a l'impression, Brigitte Dormont, que c'est avant tout une logique économique, financière, qui motive, on va dire, ces réformes autour de la protection. Protection santé, davantage peut-être que d'essayer d'avoir un système qui serait plus juste qu'il ne l'est aujourd'hui.
Alors la préoccupation des inégalités sociales de santé, elle est documentée, et c'est vrai que la France, alors dans tous les pays, il y a des inégalités sociales de santé. Mais la France est le pire. Donc c'est comme pour l'éducation.
Alors qu'on a la couverture maladie universelle, par exemple, ce qui peut paraître totalement contradictoire.
Absolument. Et la question, comme l'a dit, le diagnostic, comme l'a dit Nicolas Davout, c'est que ça repose essentiellement, c'est pas une question de financement, c'est une question de couverture, c'est une question d'accès aux soins, d'organisation de la médecine de premier recours, etc. Alors je voulais revenir sur l'histoire de... si c'est payé par l'impôt, à ce moment-là, il faut garantir l'accès. Cette question, elle existe déjà maintenant avec le système des cotisations. Avec la CSG, les cotisations sociales, il y a des prélèvements obligatoires qui financent la couverture maladie. Et ces prélèvements obligatoires font que, normalement, donc ces prélèvements obligatoires financent en particulier les remboursements pour les consultations chez le médecin, chez le spécialiste, chez le généraliste. Et donc, tout le monde contribue également au financement des soins, et donc il serait juste et conforme au pacte de 45, mais même à la justice la plus élémentaire, que chacun ait accès à un médecin dans sa zone géographique à un tarif conventionnel, ce qui n'est pas le cas actuellement, parce que notamment il y a de plus en plus de médecins spécialistes qui font des dépassements d'honoraires, et donc là la force publique ne garantit pas l'égal accès aux soins. Alors il faudra qu'on parle du PLFSS éventuellement, enfin des
projet de loi de financement de la sécurité sociale. Nicolas Duvoux,
juste un mot sur la couverture maladie universelle que vous avez évoqué. Ça c'est typique de l'ambiguïté de la protection sociale. C'est dit universel, en fait c'est un système assistentiel qui est pour les personnes qui sont démunies. Et donc, ces personnes, il y a un seuil, on sort du plafond de la CMU quand on arrive à un certain niveau de revenu. Donc, en fait, c'est un système d'assistance ciblé sur la pauvreté. Ce n'est pas universel. Universel, c'est quand les riches et les pauvres en bénéficient.
Alors, je vous rappelle que ce soir, on discute du grand chambardement dans le système de protection sociale français, en compagnie du sociologue Nicolas Duvoux et de l'économiste Brigitte Dormont. Il y a aussi un élément qu'on a abordé par toute petite touche, mais qui est celui des retraites. Là aussi, on nous promet une réforme importante. Alors, ça demande à être défini, même si on a quelques indications dans ce qu'a pu être le programme d'Emmanuel Macron. Mais je vais vous citer un article très, très récent du journal Les Échos, qui date du 13 septembre dernier, qui annonce, donc, en tout cas dans le projet, qu'on supprime les régimes spéciaux, et qui explique par ailleurs que les annuités du régime général seront oubliées. Tout le monde sera à la même enseigne dans le futur système par points, où un euro cotisé rapportera les mêmes droits à chacun, quelle que soit sa profession ou sa branche. Est-ce qu'on peut dire en tout cas qu'on est là encore dans la même logique, c'est-à-dire d'universalisation des droits, Brigitte Dormont?
Alors la réforme du système de retraite, donc ils n'ont pas très bien dit ce qu'ils feraient, mais il y a beaucoup de choses en discussion. En fait, cette idée, elle est vraiment très très proche de la réforme qui a été faite en Suède. Et l'objectif de la réforme en Suède, alors il y a quelque chose autour de la reprise en main du paritarisme qui n'est pas clair et on ne sait pas très bien ce qu'il y a dans les tuyaux par rapport à ça, mais l'esprit de la réforme suédoise, c'était de verrouiller le taux de cotisation. En fait, c'était de dire, on cotisera, alors je ne sais plus très bien, je crois que c'est 17%, toujours. Bon. Et donc, les problèmes des systèmes de retraite par répartition, comme on a nous en France, hein, c'est-à-dire que c'est les cotisations de cette année qui financent les retraites de cette année. Bon. Donc, le problème de ce genre de système, c'est que quand on décide le taux de cotisation et le taux de prestation, en fait, on définit quelque chose qui rend le système très fragile et crée beaucoup de déficits si les gens vivent plus vieux, s'il y a du chômage qui fait qu'il y a moins de cotisations, etc., etc. Donc c'est très sensible à la conjoncture et très sensible aux fluctuations démographiques. Donc l'idée du système par points, c'est de dire on verrouille les cotisations, 17%, et puis on servira aux gens des points et la valeur des points variera en fonction de s'il y a beaucoup de personnes âgées, si la conjoncture baisse, etc.
Mais c'est tout aussi fragile parce que justement, la valeur des points, elle peut augmenter, mais elle peut aussi baisser.
Mais ça veut dire justement que les retraites vont fluctuer et non pas le déficit du système de retraite qui, comme actuellement, peut permettre de dire on modifie les prestations par une délibération politique. Donc l'idée, c'est de squeezer, si je puis dire, la discussion politique sur qu'est-ce qu'on fait face à l'allongement de la durée de vie. Est-ce qu'on cotise plus pour garder les retraites telles qu'elles sont ou est-ce qu'on les dégrade les prestations? Bon, ceci dit, jusqu'à présent, la discussion a conduit à dégrader les prestations d'une manière non transparente. Hein. Nous, dans notre note, on dit que ce qui a été décidé est proprement scandaleux parce que ce qui a été décidé par des ordonnances du temps de Seguin confirmées par la réforme Balladur, c'est quelque chose qui a conduit à une diminution de 20% des retraites du privé, sans que personne s'en rende compte. Hein. Donc, des décisions non transparentes, c'est pas formidable non plus. Et un des objectifs de cette réforme, bah, qui est très défendue par Bozio notamment, c'est de dire, bon, certes, on fait quelque chose qui rendra les rentes plus sensibles à la conjoncture et au mouvement démographique, mais en même temps, ça sera beaucoup plus transparent en termes de prestations. Hein, c'est un peu ça le principe.
Alors est-ce que justement, ça ne rejoint pas la logique d'ensemble qui est celle qui semble être à l'œuvre aujourd'hui, Nicolas Duvou, dans ces différentes réformes qui modifient quand même notre système de protection sociale, même si, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est-à-dire ça fait quand même déjà quelques années que c'est à l'œuvre. Réforme qui consiste donc à permettre peut-être pour les différents éléments de protection sociale de pouvoir ajuster de manière très, très souple, très rapide, alors plus transparente ou pas ça, je ne sais pas, mais justement les prestations qui sont versées.
Oui, je pense que la logique, c'est d'assurer un transfert. Dans le système de retraite français, il y a 30 ou 35, il y a une trentaine de caisses de retraite. Voilà, c'est extrêmement balkanisé, c'est très complexe. Le projet de sécurité sociale qui visait à l'unification d'un régime général en 45 a très vite donné lieu à un éclatement parce qu'il y a, voilà, il y avait des groupes qui avaient leur système.
Mais il y a quand même un avantage, c'est qu'on sait à l'avance ce qu'on touchera quand on sera là. Absolument. Là, il y aura une phase d'incertitude.
Je disais ça juste pour mettre un élément de contexte. Un des objectifs, c'est effectivement, encore une fois, moi il me semble que par-delà les enjeux de sanctuarisation du taux de cotisation que Brigitte Dormont vient d'évoquer, qui est crucial, un des enjeux, c'est aussi un transfert de pouvoir des représentants des organisations patronales, enfin syndicales et patronales, qui décident dans les caisses de retraite des paramètres de cotisation. Alors effectivement, il y a des paramètres qui peuvent être à la baisse. Enfin, tout ça n'est pas toujours pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais l'idée, c'est quand même d'assurer un transfert de pouvoir où, au fond, ces organismes qui avaient les clés de la sécurité sociale dans le modèle de 45, finalement, vont laisser la place à un ajustement qui sera beaucoup plus étroitement contrôlé politiquement. Et c'est ça, effectivement, à mon avis, l'objectif fondamental. Il y a des justifications.
Mais contrôler politiquement dans quel objectif? C'est-à-dire faire des économies, que ça coûte moins cher?
Par exemple, en tout cas, d'éviter, sans doute, ou en tout cas, de pouvoir, par exemple, faire accompagner, vous avez une crise avec un chômage important, donc une baisse des cotisations, vous pouvez faire diminuer le montant des prestations. C'est ce qui s'est passé en Suède. Quand le chômage a été important, eh ben, on a décidé de faire baisser les pensions de retraite simplement pour que tout le monde contribue à l'effort. Ça, aujourd'hui, en France, c'est pas possible. Donc, c'est exactement ça qui est derrière. Donc, c'est exactement cohérent avec ce que je dis. Mais je pense qu'il y a un projet, en fait, politique qui est plus profond. L'historienne Colette Beck avait montré à quel point la sécurité sociale était un projet politique. Et je pense qu'il faut lire ces discussions sur le modèle de protection sociale à l'aune de ces enjeux-là et pas simplement de réformes paramétriques ou budgétaires.
Est-ce que ça n'est pas justement peut-être ce qui manque aujourd'hui ? Encore qu'on va voir si dans les mois, dans les semaines et les mois à venir, ce débat apparaît un peu peut-être davantage sur la place publique, c'est-à-dire cette approche un peu globale de la refonte du système de protection sociale. Mais est-ce qu'il ne manque pas justement l'affichage d'un vrai projet politique et d'un vrai débat politique sur qu'est-ce qu'on veut en fait comme protection sociale aujourd'hui en France, Brigitte Dormont?
Oui, je suis tout à fait d'accord, c'est ça la question. C'est et le fait de faire une réforme comme celle d'une retraite par points permet d'évacuer le rendez-vous social au cours duquel on discuterait de la générosité recherchée du système. Et donc là, je crois que pour l'assurance chômage, on devrait discuter de ça, pour les retraites aussi. Et là, l'idée de... Alors, je pense qu'effectivement, c'est de rendre transformé par une réforme technique pour évacuer le rendez-vous social. Hein, je dirais que le verrouiller le taux de cotisation, c'est ça.
Mais alors, c'est quoi? Parce qu'il y a projet, des mauvais souvenirs, notamment, alors on pense évidemment
bien sûr,
à la réforme
c'est toujours
Juppé,
très,
95.
Toutes les réformes sont très douloureuses à réaliser. Et donc, il y a l'idée de faire en sorte qu'il y ait un ajustement technique automatique en fonction de l'espérance de vie, en fonction de la valeur du point, etc., qui évite le rendez-vous politique. Mais alors, sur le projet par rapport aux réformes actuelles, je ne sais pas s'il y a un projet, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe qui est conforme à ce qu'on observe partout en Europe. Hein, depuis la crise des subprimes, enfin, au milieu des années 2000, il y a vraiment des pressions en Europe pour réduire les dépenses publiques. Et les dépenses publiques qui sont réduites, c'est les dépenses de protection sociale. Et comment elles sont réduites? Elles sont réduites en faisant glisser les systèmes, donc là je fais un peu à la SERP, hein, c'est un peu grossier, mais on fait glisser les dépenses de solidarité vers des dépenses d'assistance. Hein, l'idée, c'est on va réduire les dépenses de protection sociale en se concentrant sur les pauvres. Et le reste de la population, les classes moyennes supérieures, elles vont peut-être avoir une dégradation de leur situation. Donc c'est pour ça que quand on parlait du RMI, du RSA ou de la CMU-C, le plafond de la CMU-C, hein, qui est une assurance complémentaire maladie gratuite, d'accord, le plafond au-delà duquel on n'a plus la CMU-C est très en dessous du seuil de pauvreté.
75%, hein, c'est ça qu'il faut savoir. Pauvreté,
donc ouais, c'est vraiment très très bas. Et donc là, on se concentre sur les pauvres et on relève les minima sociaux, c'est ce que Macron fait. Hein. Macron a décidé de relever les minima sociaux, donc ça semble généreux, mais en fait, c'est quelque chose de très cohérent, c'est-à-dire qu'on augmente la contributivité de toutes les prestations sociales, donc on réduit les avantages de pratiquement tout le monde, mais on laisse entier, même on restaure le coussin de sécurité qui fait que la société reste humaine et non contestable et on limite les désordres sociaux en augmentant un peu les minima sociaux. Donc ça, c'est quelque chose, se concentrer sur la pauvreté et sur l'assistance, c'est quelque chose qui va de pair avec une sorte de remise en cause de la protection sociale à la Bismarck, hein, si je puis dire.
On est dans un continuum, est-ce qu'on est aussi dans un retour en arrière, Nicolas Duvoux, c'est-à-dire du système qui existait avant notre système actuel de protection sociale?
Oui, absolument. Quand on revient vers l'assistance, de fait, on revient vers des formes qui sont antérieures à la généralisation, à la tentative de généralisation de la sécurité sociale dans la deuxième moitié du XXe siècle. Je mettrais juste un petit bémol sur l'augmentation des minima sociaux, parce que on en parle pour le handicap, on en parle pour le minimum vieillesse, on n'en parle pas pour le cœur, en fait, qui est le RSA, où là, pour les mauvais pauvres, ceux qu'on identifie comme les mauvais pauvres, les adultes valides qui pourraient travailler, eh ben, en fait, on ne fait pas de gestes. Alors qu'on en fait un pour les personnes en situation de handicap ou pour les retraités. Donc ça aussi, idéologiquement, c'est extrêmement important de le signaler. Mais ce que Brigitte Dormont dit, qui est très clair et évident, c'est que le ciblage, en ciblant sur les pauvres, ça coûte beaucoup moins cher. Faire de la CMU, du RSA, ça coûte beaucoup moins cher que des prestations beaucoup plus générales, beaucoup plus généreuses. Deuxième point, à titre de stratégie politique, alors peut-être qu'on manque de vision sur le projet qui est cohérent derrière toutes ces réformes individuelles.
Peut-être que c'est fait exprès.
Mais peut-être que c'est délibéré pour éviter la constitution d'un front comme ça avait été le cas en 1995 au moment du plan dit Juppé de réforme de la sécurité sociale. Et il n'est pas du tout impossible que ce saucissonnage des dossiers qu'on aborde techniquement soit recherché. Et dernier point, c'est qu'il faut mettre à mon avis en lien ces réformes et notamment celle de l'indemnisation du chômage avec celle du marché du travail qui vient d'entrer en vigueur avec les ordonnances, parce que si on réforme l'indemnisation du chômage et qu'on élargit un petit peu le périmètre, en même temps on va pouvoir dire aux chômeurs c'est l'État qui paye pour vous, donc maintenant il va falloir que vous rendiez des comptes. Et c'est tout à fait cohérent avec la flexibilisation du marché du travail.
Juste d'un mot, mais très court, Brigitte Dormont, un saucissonnage délibéré pour éviter justement d'avoir à aborder cette question de manière globale et éventuellement conflictuelle ?
Je ne sais pas répondre à ça. Je ne suis pas forcément à penser qu'il y a un grand plan de désengage. Je voulais juste dire un mot sur la santé. Il y a quand même l'augmentation du... Il n'y a pas de scoop absolu dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, mais il y a l'augmentation du forfait hospitalier, qui est le retour à des pratiques qui avaient disparu depuis 2012, qui est d'augmenter les dépenses aux frais des patients ou des assurances complémentaires. Donc on augmente la part du privé très inégalitaire dans le financement de l'assurance maladie. Et là, c'est quelque chose qui est nouveau, que le gouvernement précédent avait abandonné, et on retombe dans cette pratique. Et
ça mériterait sans doute une émission à part entière. Merci en tout cas beaucoup à vous deux, Brigitte Dormont et Nicolas Duvoux, de nous avoir éclairés sur les enjeux et sur les transformations à l'œuvre dans notre système de protection sociale. On peut réécouter cette émission sur franceculture.fr.